du jazz.
D'hier et d'aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Quand on pense jazz, on pense à swing naturellement, mais on pense aussi, tout de suite après, à improvisation. Et c'est vrai que le jazz, qui est une musique de l'instant, est une musique où l'improvisation a une très large part.
Alors il y a deux formes d'improvisation. La toute première, si on peut dire, c'est l'improvisation libre. C'est-à-dire que on dit aux musiciens, joue ce que tu veux, mais invente. Et il faut bien sûr que ce soit musical, joli. Mais il invente ex nihilo.
C'est là qu'on veut dire tout de suite que le but de l'improvisation n'est pas d'aligner des notes, mais de raconter une histoire.
Au fond, il faut que ce soit à la fois, comme tu dis Laurent, construite, mais en même temps, il faut que ce soit musical. Le problème, c'est que souvent, on tombe sur des gens qui disent à des élèves qui ont toujours lu sur partition, « Vas-y, lance-toi, improvise ». Or, ils ont toujours eu les notes sous les yeux. Ils sont perdus. Alors, que font-ils? Eh bien, ils font pom pom pa tout tita bou 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 bou.
Vous avez compris que l'improvisation aboutie demande un talent parce qu'on construit au fur et à mesure. Exactement comme l'organisme fabrique de l'ADN. Hein, c'est quand même. Non, mais je. C'est quelque chose d'important à considérer. Alors, nous allons commencer par, justement, une improvisation libre et une des plus réussies parmi celles que nous connaissons. Elle est due à Django Reinhardt. Pour comprendre ce qu'il va dire, parce que nous allons vous raconter la séance, puisqu'elle figure dans les mémoires du Panassi, on va en profiter. Il faut savoir qu'à l'époque où cet enregistrement a été fait, on en était aux 78 tours, on gravait dans de la cire, et avant de passer à la réalisation définitive, on écoutait pour être sûr que le son était bon et tout ça. Et là, on détruisait la cire. Donc il y a un nombre infini de premiers jets qui ont été perdus par ce modus operandi. Tu me diras qu'on aurait pu mettre deux platines en mettant une double cire d'essai en gardant si elle était bonne. Mais ça, pour le jazz, ça n'existait pas. C'est comme ça. Voici ce qui s'est passé ce jour de 1937 avec Django Reinhardt à la demande du label anglais qui s'appelait His Master Voice, c'est-à-dire la voix de son maître. Vous savez, le petit toutou devant le haut-parleur. Là.
C'est Hugh Panassié qui parle. J'ai dit que la compagnie avait demandé deux faces jouées par Django seul à la guitare. Django n'avait guère envie de se rendre à cette demande. Il n'avait jamais fait de disque semblable et ne savait pas trop quoi jouer. Finalement, Delaunay lui dit « Tu n'as qu'à improviser quelque chose. Ce sera sûrement bien. Allez, va !» Django se décida brusquement et dit aux ingénieurs de se préparer. Il me pria de sortir ma montre et de lui faire signe lorsqu'on approcherait de la troisième minute d'enregistrement afin qu'il puisse prendre ses dispositions pour terminer l'interprétation en temps voulu. Et c'est ainsi que fut enregistré cet admirable solo intitulé à bon escient « Improvisation » qui s'évade des cadres de la musique de jazz pour rejoindre parfois la musique d'esprit gitan, andalou. Django, s'abandonnant complètement à l'inspiration du moment, se lança dans une suite de phrases d'harmonie plus belles les unes que les autres. Debout à deux pas de lui, je suivais attentivement sur ma montre l'évolution de l'aiguille des secondes. 15 ou 20 secondes avant les 3 minutes, je levais la main pour montrer à Django qu'il fallait terminer bientôt. Sans s'émouvoir, il continua son improvisation pendant quelques secondes et l'amena à une conclusion si logique qu'on eût juré que tout avait été savamment préparé. Tous les gens qui se trouvaient au studio jugèrent cette improvisation si parfaite qu'ils supplièrent Django de ne pas écouter cette cire, estimant qu'il ne ferait jamais aussi bien. Django se rendit à nos conseils. Ce petit chef-d'œuvre fut donc enregistré sans qu'on eût seulement fait une cire d'essai.
Mmh.
Ça, c'était donc une improvisation libre. Évidemment, on ne va pas pouvoir comparer Django à des jeunes débutants. Je veux parler là de quelque chose qui me touche de près, puisqu'il s'agit de mes élèves de violon traditionnel qui jouent, comme les jazzman, à l'oreille. Lorsque nous avons eu le Covid, on ne pouvait pas se voir en présentiel. C'était très difficile, surtout au début. Et finalement, on s'est dit, ce serait complètement génial que chacun dans son coin, ils viennent montrer, quand on faisait les cours par vidéo, les improvisations libres qu'ils avaient créées eux-mêmes. C'est-à-dire, on part comme ça, on jette sa musique. Mais il y avait deux conditions que je leur avais demandées, c'est que ce soit joli, ça c'est une interprétation un peu personnelle, mais aussi que ce soit construit. C'était pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, papa pitotitatutata. Il fallait qu'il y ait une musicalité. Et pendant toute une année, mes élèves ont travaillé ça. Et maintenant, ils sont fous de joie parce qu'ils peuvent improviser librement.
Dans le jazz, pour en revenir au jazz, la plupart du temps, on improvise sur un morceau donné, sur une trame harmonique. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau, puisque du temps du baroque, c'est-à-dire quand même, on remonte là au XVIIe siècle, les gens improvisaient sur des basses chiffrées, plutôt sur des lignes de basses que sur une série d'accords. Ça revenait un peu au même, et même les concours de recrutement se passaient sur l'improvisation. Alors dans le jazz, donc, on improvise sur tel ou tel morceau, mais naturellement, l'improvisation reste quand même tout à fait libre, et cette notion de raconter une histoire nous mène à la notion de langage. Et en fait, le jazz a adopté massivement un langage qui a été créé par Louis Armstrong au fil de quelques disques fondateurs. Voici un de ces disques, ça s'appelle « Once in a While », autrement dit « Illico presto subito ».
Thank you.
partant de la notion de raconter une histoire, ce que les jazzmen appellent « tell a story », c'est un critère très important chez eux. Naturellement, on trouve des narrateurs. Et il y a dans le jazz de très grands narrateurs, comme le tromboniste Jimmy Harrison, qui en est vraiment un parfait exemple.
Ça va être très étonnant quand un musicien comme Jimmy Harrison improvise, mais d'autres aussi, qui sont très créatifs. On lui dit « tu vas improviser sur tel morceau ». Ok, pas de problème. Il improvise une première fois, avec ses notes, ses mots, son langage. Mais on peut lui demander une deuxième fois, mais improvise sur le même morceau. Pas de problème. Mais il ne va pas répéter ce qu'il a dit déjà, ce qu'il a raconté, ce qu'il a chanté, ce qu'il a joué. Non, non. Hop ! Et voilà une deuxième version. Ben, il peut en faire une troisième, il peut en faire une quatrième. Parce que ce qui compte chez ces musiciens-là, c'est la diversité de ce qu'ils racontent.
Et figurez-vous que, par miracle, un excellent arrangement de l'orchestre de Fletcher Anderson a été enregistré trois fois de suite, le même jour, et on a conservé les trois versions.
Et ça, c'était très rare.
Là, c'est vraiment une chance. Alors, nous allons vous passer un petit montage où vous entendrez la même intervention de Jimmy Harrison au même moment de l'arrangement, mais de trois façons différentes. Et vous allez voir la capacité d'improvisation de ce musicien et l'aisance qu'il a pour vous raconter une histoire d'une façon, d'une autre et d'une troisième. Ça s'appelle « St. Louis Shuffle ».
Vous avez entendu le musicien libre dans son improvisation, mais bien sûr toujours suivant les harmonies. Mais il y a une manière de faire qui est plus proche de la base musicale de départ. On rentre dans cette base musicale et puis on s'en échappe un petit peu. Et puis on revient dans la base musicale et on s'échappe à nouveau en créant quelque chose, dans une sorte de fleuve sans aller trop à droite ni trop à gauche.
Et le fleuve dont tu parles, en fait, c'est l'arrangement du morceau. Là, nous sommes toujours avec l'orchestre de Fletcher Anderson, et vous allez entendre deux trompettistes. Le premier, il improvise, on pourrait presque dire tout à fait classiquement. Il improvise comme on improvise généralement dans le jazz. Mais le deuxième qui arrive, lui, comme tu disais très justement, il se coule dans l'arrangement. Moi, vous allez pouvoir apprécier comment il se sert de l'arrangement. C'est tout à fait passionnant. Le morceau s'appelle « Stockholm Stomp ».
Thank you.
Eh bien maintenant, nous allons sauter presque une quarantaine d'années et nous nous retrouvons tous les deux en bonne compagnie dans un studio d'enregistrement parisien près de l'Étoile. Il s'agissait d'une séance d'enregistrement en solo par le grand Earl Hines, qui a été certainement un des plus inventifs pianistes qui soit. Alors, comme improvisateur, celui-là, je dois dire, c'était assez extraordinaire.
Sa première vision, quand il rentre dans le studio, c'est un piano Steinway. Il s'y précipite, il l'essaie, il regarde tout le monde et il dit « on aimerait dormir dedans ».
C'est une séance qui partait pas mal. En fait, elle a duré 2 heures. Je ne sais pas si tu te rends compte de la vitesse à laquelle les choses se passent pour qu'on enregistre un micro-sillon qui était 2 fois 20 minutes en 2 heures.
Oui, alors que d'ordinaire, très honnêtement, il faut 5, 6, 7 heures pour arriver à faire quelque chose comme ça. Et encore.
Et quelquefois, on s'y met sur 2 jours.
Oui.
Là, ça s'est passé à une vitesse absolument incroyable. Et on a absolument fait, pour chaque morceau, qu'une seule prise. Je crois qu'il y a eu 2 morceaux que Earl Hines a joué 2 fois. Une seule prise, et hop, au suivant. C'est un disque absolument merveilleux, dont nous allons vous extraire un morceau encore plus merveilleux. Là, il est absolument incroyable.
Très, très connu dans le jazz.
Ah oui, c'est un standard.
Sweet You.
Just You. Earl Hines. À ce qui s'appelle une exploitation totale d'un morceau. Je dois dire que là, ce Sweet You a été pressé dans tous les sens, comme un glorieux citron. Je ne vois pas ce qui pourrait rester après, à part les zestes.
Et maintenant, du piano. Eh bien, on fait un grand saut, puisque on va au grand orgue.
Alors, le grand orgue, en jazz, il y a une seule personne qui en a joué, qui a été capable d'en jouer, parce que le grand orgue, c'est extrêmement complexe. Il y a des dizaines de tuyaux sonores, il y a un pédalier, Il y a plusieurs claviers, il y a énormément de registres. Enfin, si vous avez déjà vu commencer un grand orgue en vous mettant à la place de l'organiste, vous devez vous faire une petite idée.
D'ailleurs, à Saint-Flour, allez-y si vous pouvez. Bien sûr, il faut l'autorisation de l'organiste. Mais allez-y voir. Vous savez qu'on possède à Saint-Flour un des plus beaux orgues de France au niveau du son et de la qualité.
Là, ça se passe à Londres. Et au clavier, au pédalier, au registre, il y a Fats Waller.
Alors, il faut savoir que Fats Waller, il a commencé très, très, très petit. Il a épaté tout le monde. Cet enfant-là arrivait à faire des accords à l'âge de 4 ans.
Oui, mais enfin, attention, hein. Vu le poids qu'il pesait à 4 ans, il ne s'appelait pas encore Fats. C'était le jeune Thomas Waller, simplement. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il a joué de l'orgue avant de jouer du piano. Fats n'a enregistré des solos d'orgue, de grand orgue, qu'une seule fois dans sa vie, à Londres donc, et il s'agit d'une série de 6 gospels.
Il se retrouve en pays de connaissance, j'allais dire presque en pays d'enfance. Il a tellement vu des musiciens dans l'église de son papa, puisque son papa était pasteur. Il a tellement vu des musiciens, des chanteurs improviser, que mon Dieu, il va improviser au grand orgue, comme c'est un musicien absolument époustouflant. Il peut, mais c'est dans sa tradition, c'est dans ses gènes, ça.
Et il en tire un parti absolument exceptionnel. Vous allez entendre un de ses 6 gospels, c'est une vraie merveille. Il s'appelle Waterboy, c'est-à-dire, Waterboy, c'est l'enfant de l'eau. C'est celui qu'on a trouvé dans une corbeille.
Ben, c'est le petit Moïse, tout simplement.
Voilà, et c'est pour ça que dans les familles d'il y a quelques décennies, quand on mettait les nouveau-nés dans une petite corbeille, ça s'appelait un Moïse.
Eh ben voilà, vous avez appris quelque chose aujourd'hui.
Oui, ça c'est des choses que les moins de 70 ans ne peuvent peut-être pas connaître. Et dans cette interprétation, qui est une totale improvisation, Fats démontre qu'il est parfaitement capable d'exploiter toutes les possibilités d'un grand orgue. Thank you. Notre improvisation sur l'improvisation nous amène maintenant à un disque historique. Figurez-vous que le jazz fonctionnait tellement bien en France à la fin des années 30 que deux Français, donc Hugues Panassier et Charles Delaunay, qui à l'époque travaillaient totalement en tandem, ont eu l'idée de fonder une marque de disques qui s'est appelée Swing et de commencer leur production par un disque tout à fait hors des sentiers battus, puisqu'il s'agissait de faire enregistrer quatre saxophonistes et de les faire improviser tour à tour entre deux parties arrangées.
Ils ont choisi quelque chose qui déjà annonce un peu la couleur, puisque ça s'appelle « Crazy Rhythm », ce qui veut dire « le rythme fou ».
C'est un excellent standard.
Il y a un peu le maître et les disciples.
Les deux maîtres sont saxophone alto Benny Carter, saxophone ténor Coleman Hawkins.
C'est pas n'importe qui ces gens-là.
Ah non.
Et les deux autres, les petits, ceux qui suivaient, qui étaient les disciples.
André Équian.
Français.
Et Alix Combel.
Français.
Équian est le saxo alto, Combel le saxo ténor. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'ils auraient apprécié ta manière de les qualifier de petits, parce que c'était de très très bons musiciens qui avaient envie de rivaliser aussi. Hein.
Parce que quand même, chez les musiciens, il y a toujours une espèce, malgré tout, de rivalité. Même si on reconnaît quand même qu'il y a le maître. Alors, j'étais un peu forte en disant petit, mais je veux dire qu'ils avaient envie de se montrer à leur meilleur.
C'est d'ailleurs ce qu'ils ont parfaitement réussi.
Absolument.
À faire. Là, malheureusement, il y a eu une cire d'essai, donc on ne saura jamais quelle a été la version originale. Mais ce que vous allez entendre, c'est ce qui a été enregistré tout de suite après. Le premier à jouer, c'est le saxo alto d'André Équian, suivi du saxo ténor d'Alix Combel. Et après, on voit arriver le saxo alto de Benny Carter. Et là, je dois dire, il y a quand même un sacré décalage. Et l'arrivée de Benny Carter, on dirait presque qu'il s'élance sur une patinoire. C'est une sorte de mouvement décalé, avec beaucoup d'élan. C'est tout à fait remarquable comme irruption. Et ça se termine par le grand Coleman Hawkins, qui a droit à une double ration de mesure, tout de même. Crazy Rhythm. Thank you.
l'heure, on vous a parlé de l'improvisation libre. Maintenant, je vais préciser une petite chose. C'est merveilleux l'improvisation libre, surtout si on est un musicien, qu'on crée des mélodies, mais on n'a pas de contraintes. Par contre, si vous improvisez sur un morceau qui a une grille, une tonalité, vous avez cette contrainte de vous mettre, comme on disait tout à l'heure, vous couler dans le morceau. Et c'est justement ce que j'ai vu avec mes élèves de violon, c'est qu'ils ont commencé à improviser librement et après ils ont dit « on aimerait bien improviser sur des morceaux ». Je leur ai dit « ben, essayez ». C'est un peu comme si vous appreniez une langue. Vous ne pouvez pas commencer tout de suite, comme ça, directement. À moins d'être un génie dans le genre Fats Waller, il faut apprendre à parler pour pouvoir créer sa propre musique tout en restant collé à la musique donnée.
Et qu'est-ce qu'on fait avec une langue ? Eh bien, on raconte des histoires, on en revient toujours là.
Et voilà.
Et justement, le quatuor de saxophone que vous avez entendu tout à l'heure, où il y avait Common Hawkins, avait été enregistré à l'occasion d'un très long séjour que Hawkins a fait en Europe, qui a duré plusieurs années. Et puis un jour, il a décidé de rentrer au pays. Et là, les gens avaient tendance à dire « Ouais, Hawkins, il a joué avec des musiciens européens, il est un peu dépassé, etc. » Et les premiers enregistrements qu'il a réalisés, une fois rentré à New York, eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont remis l'église au milieu du village. Et chose curieuse, le morceau historique de cette séance a été le bouche-trou. C'est-à-dire qu'ils avaient fini leur programme, il restait un peu de temps. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on va en faire un de plus. Tiens, on va improviser sur Body and Soul.
Et ce morceau-là, c'est un morceau que l'Amérique entière connaissait. C'était un morceau de revue. Tout le monde l'a chanté. Je ne dis pas que c'était au clair de la lune, mais c'était pas loin.
Non, c'était très connu. Et alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est le parti extraordinaire qu'Hawkins en a tiré. C'est devenu un disque historique, à tel point que quand Guy Lafitte, notre plus grand saxo-ténor français, est mort, Guy Lafitte s'est fait enterrer sur le Body and Soul de Common Hawkins. Thank you.
finalement, les musiciens improvisateurs, ils finissent par être des créateurs, avoir très envie de créer. Et ils ont quand même, en général, l'œil sur les autres improvisateurs. Ils peuvent être admiratifs, ils peuvent être envieux, mais souvent, c'est une source de progrès que de pouvoir écouter et admirer ce que l'autre a fait. Il faut être compétiteur dans le bon sens du terme. Et c'est ce qui se passe dans les jam sessions, où chacun va s'exprimer avec beaucoup de liberté, et en même temps, le désir quand même de montrer ce qu'il sait faire.
Oui, oui, beaucoup de vigueur. Et ce qu'il y a de sympathique dans la jam session, c'est qu'il s'agit rarement de rivalité, mais beaucoup plus d'émulation.
Une jam session, si vous regardez dans le dictionnaire, jam, ça veut dire une sorte de foule, beaucoup de gens qui se pressent, qui se mettent ensemble, ou alors des fruits qu'on presse et qu'on mélange. Donc au fond, c'est le mélange des gens et des genres. Et ça, dans une session musicale.
Et il est peut-être à considérer que quand quelqu'un dit « That's a real jam », ça veut dire « Ah ça, c'est un vrai bonheur ». Un big band, il y a beaucoup de musiciens. Chez Ellington, il y avait donc également beaucoup de grands solistes. Et donc, Duke Ellington a eu l'idée un jour d'organiser un morceau en jam session avec les musiciens de son orchestre.
Qui n'était pas contre, parce qu'il y a dans la jam session une liberté.
Mais là, la liberté était ellingtonienne, donc assez bien encadrée.
Oui,
et
toujours.
Le morceau a un vrai déroulement. Il est intéressant parce qu'il va comporter vers la fin, après que pas mal de solistes, très connus d'ailleurs, et chacun pris un ou deux choruses de blues, parce que le morceau c'est un blues en fait. Mais il débouche sur quelque chose de typiquement jam session, c'est sur une bataille de trompettes. Ils sont trois, Clark Terry, Willie Cook, Cat Anderson. Et là, ils se tirent la bourre grave.
Rappelez-vous que Cat Anderson a un avantage, si on peut dire, c'est que c'est le spécialiste des suraigus.
D'ailleurs, nous le retrouvons un peu plus loin dans l'émission. La bataille commence sur la citation de Carmen. Tap, ta, 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 ta. Thank you.
Le morceau suivant, c'est un génie qui joue le morceau d'un génie. Tatum joue Massenet. Alors, Massenet, c'est un musicien classique. Maintenant, il est assez oublié. Mais à l'époque, c'était un auteur connu dans toute l'Europe.
Quelle époque ?
La belle époque. Tatum, c'était quelqu'un qui connaissait la musique classique. Il était aveugle. Il était tellement extraordinaire que des musiciens classiques venaient l'écouter, éblouis par son inventivité et sa technique.
Vous aurez compris que là, il s'agit d'un phénomène. Imaginez-vous Carl Tatum, qui aimait avant tout jouer du piano, mais acharné. Il jouait sur tous les pianos qu'il rencontrait. Et quelquefois, il en rencontrait de très mauvais, dont les touches ne remontaient pas. Parce que ça arrive quand un piano a été dans des conditions un peu humides, que les touches se coincent un peu. Eh bien, d'une main, il continuait à jouer, et de l'autre, il remontait toutes les touches qui étaient restées coincées, et il continuait son morceau. C'était un type absolument prodigieux. Et alors, pour en revenir à Massenet...
Le morceau que Tatum a joué et que vous allez entendre s'appelle « Élégie ». « Élégie », c'est un poème triste mis en musique.
L'élégie de Massenet, c'est une page très connue de la musique européenne. Et je me suis toujours demandé ce que Massenet aurait pensé en entendant ce dont vous allez pouvoir profiter. Parce que ce que Carl Tatum fabrique comme improvisation avec l'élégie de Massenet, c'est absolument prodigieux. Et là, on retourne à l'improvisation libre. Le pianiste est totalement en liberté.
Au fond, il s'est évadé du sujet.
On peut le dire comme ça.
Je ne sais pas si vous connaissez ce morceau de Brassens. qui à l'époque était très célèbre. Le temps ne fait rien à l'affaire.
Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con.
Oh, mais c'est lui qui l'a dit, hein, pas nous, naturellement.
Non, nous, bon. Rien du tout. Hein, nous, c'est pas nous qui évoquons le petit con de la Néraverse ou le vieux con des neiges d'antan. Hein. Non.
C'est pas nous. Le batteur, moustache, un bon français avec une grosse moustache gauloise, il adorait bien sûr Brassens. Et il s'est dit, mais le répertoire Brassens, c'est du jazz. Ça danse, c'est simple, c'est lumineux.
C'est vrai que Brassens aimait beaucoup le jazz. Et c'est ce qui a donné à Moustache l'idée d'enregistrer en jazz le répertoire de Brassens avec de très bons musiciens français auxquels était systématiquement adjoint un grand musicien américain. Brassens était ravi. Il a d'ailleurs joué dans ces disques-là. Et ça va nous permettre de terminer notre émission avec ce qui lui manquait jusqu'ici, c'est-à-dire une improvisation collective. Parmi ces grands musiciens américains, une des séances a vu arriver au studio le seul et unique Cat Anderson, que vous avez d'ailleurs déjà entendu un petit peu plus tôt dans l'émission.
Alors là, ça se termine finalement à la manière un peu de Cat Anderson, parce qu'il prend un peu les choses en main. Ça devient de plus en plus punchy, et puis ça devient même
violent. Nous prenons le disque au moment d'un solo de batterie qui mène à la conclusion, et c'est là qu'arrive Cat Anderson. Et Cat Anderson mène cette improvisation collective, on pourrait dire, sabre au clair. C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs musiciens qui improvisent ensemble, l'ensemble est très homogène, et le rôle du trompettiste qui est toujours de mener l'improvisation collective, alors là, il est tenu d'une manière hyperbolique. D'ailleurs, j'ai un ami qui, quand il veut montrer aux gens ce que c'est que le swing, leur passe ce passage du temps ne fait rien à l'affaire.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.